France Inter.
C'est la bande originale, Lilian Bonjour, et bienvenue avec Camilla Cadeau-Boudadi, Lisa Delmour-Mathier, Emma Beaujean, Tristan Lopin, Tanguy Bastion, Daniel Morin. Nos invités sont Théo, Christine et Cyprien. Bien. La semaine prochaine au cinéma, le 19 mars, sortira Magma, que vous avez réalisé, Cyprien, avec vous, Théo, Christine et également Marina Foïs. On en avait parlé d'ailleurs, lorsque Marina était venue à ce micro. Comment allez-vous, Cyprien, d'abord?
Oh bah ça va. Hein.
Dans quel état d'esprit?
Je n'ai pas trop l'habitude de passer à la radio. Oh. Je n'ai pas dormi de la nuit.
Oh. On est désolé.
Ça valait pas le coup. Hein.
Cyprien,
on va se prendre le chaud.
Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance.
Et en fait, le mec, pas du tout. Non, j'étais un after. Rien à voir avec la radio. Rien à voir. Le film se déroule en Guadeloupe et justement, petit tour de table de souvenirs des Antilles. On va élargir parce que vous êtes.
C'était horrible.
Tout salé. Alors dis-nous, Daniel.
Souvenirs des Antilles. Ouais. Les Antilles, ah ben non, formidable. J'y vais pour prendre le soleil, pour me reposer.
Cliché.
Ah non, mais j'y vais pour ça et pour le rhum.
Il t'est rien arrivé aux Antilles de particulier?
De mal, non.
Ou de bien?
Non, de bien. Non, rien. Tout est formidable.
Bizarre, est-ce que t'as un souvenir des Antilles?
Aucun souvenir des Antilles.
T'es jamais parti aux Antilles?
Non, absolument. Non, c'est pas un choix.
Pardon, alors,
moi,
tu es
vivante, pauvre. Non,
parce que c'est pas.
Après, je suis belge, c'est peut-être moins une destination.
J'ai un petit souvenir gênant qui est revenu.
C'est pas des prix totalement dingues, me semble-t-il, de partir aux Antilles. C'est pas la destination la plus.
Non, c'est pas.
Ça dépend de la période, non?
Il y avait AOM à l'époque qui faisait des vols très sympas.
Oui. Sympa. Oui, alors je suis aux Antilles et je suis là, je me dis tiens, j'irai bien dans la piscine, un petit peu nager, tranquille.
Normal.
Et puis on me dit, ah ben non, la piscine ouvre à telle heure, 9h. Il doit être 8h30. Je vois quelqu'un qui nage. Je fais, mais quand même, pourquoi la personne...
Discrimination
peut nager? Oui, un peu discrimination. Je fais, ben non, je veux dire, non, mais lui, c'est particulier. Et je me rapproche un petit peu, je vois la personne sortir de l'eau, c'était Eric Zemmour. Et j'ai fait, je comprends, je vais lui laisser le bassin.
Blague.
Je vais lui laisser le bassin.
Mais quoi, il a droit à la piscine?
Non, ouais, et avant tout le monde. Et avant tout le monde, j'ai failli partager.
En même temps, c'était le pédiluve, hein, on voit pas dans le... Et t'as failli oublier cette anecdote.
Oui, j'ai failli oublier ça. Mais après, on s'est réconcilié, on est devenu très potes.
Bien sûr. Tristan,
moi, je suis allé une fois en Martinique.
Et, jouer ou
non,
vacances?
Il y a genre avec mon premier amoureux, et c'était une année où il y a eu un énorme ouragan. On a dû poser des matelas sur les fenêtres, etc. Les lampadaires sont tombés sur la baraque.
Ouch.
Et on s'est quitté 4 mois après. Mais je crois que ça n'avait pas de lien avec l'ouragan.
Emma,
moi, j'ai appris à marcher en Martinique.
C'est mignon, ça, comme anecdote.
Les 3 premières années et demie de ma vie en Martinique. Donc ouais, j'ai appris.
Mais non, t'as grandi.
Mais j'aurais aucun souvenir.
Toujours elle fait un truc un peu au-dessus des autres.
Ouais. Ouais.
Toujours.
Mais ouais, mais c'est ça son talent.
La semaine dernière, on parlait du nord de la France, elle a sorti la même chose. J'ai appris à boire à Lille.
Leïla,
je suis allée une seule fois dans les Antilles, en Martinique, il y a quelques années.
Et c'est votre maman qui est martiniquaise d'origine.
Mon père.
Pardon, maman. Ouais. Papa.
Et j'ai un souvenir d'avoir rencontré des jeunes qui m'avaient parlé des béquets.
Ah, sans savoir ce que voulait dire béquet.
Je savais de loin.
Les colons, hein, c'est ça.
Ouais, les descendants d'esclavagistes, en fait, ouais. Et qui m'avaient un peu expliqué aussi les problématiques qu'il pouvait y avoir en Martinique.
C'est-à-dire que nous, on a des anecdotes très quotidiennes.
Moi, je discute avec les gens.
Politiques.
Moi, je me souviens pas trop des Antilles, je me souviens plutôt des Méthans, et notamment de Emma Beaujean qui a dit que j'étais bouffi avant l'émission. Je suis brisé.
J'ai dit bouffi avec un G, c'est hyper différent, ça n'a rien à voir.
Il a dit bouffi avec un G, c'est ça qui est...
À Saint-Martin des Antilles, j'ai eu l'occasion de jouer plusieurs fois, et je me souviens, à cause de l'ouragan, des bateaux partout sur la route. C'est assez marquant, les stigmates de l'ouragan qui sont assez violents, c'est assez impressionnant.
Alors quelque chose une histoire de, comment on appelle ça, d'amour. D'amour.
Quelquefois ça arrive.
Ça c'était hier. Une histoire d'amour avec une jeune fille. Nous partons pour passer le réveillon aux Antilles et on arrive. Alors, je sais pas comment. Le ciel était blanc. En fait, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas le soleil. Il y avait comme ça une espèce de nappe de
nuages. Colonisation déjà.
Mais,
le ciel était blanc.
Mais de vouloir en se disant, ouais, on est quand même à la plage, on a quand même fait tout ce voyage, on va s'allonger au soleil. Et on s'allonge au soleil, et là, il y a quelqu'un qui vient nous voir, en nous disant faites gaffe, attention. Ne restez pas allongé au soleil.
Méchant.
Et voilà, ouais. Exactement. Les trois jours suivants, à l'hôpital.
L'hôpital.
Avec des cloques, avec... Non. Oui, c'est-à-dire que en fait, cramé, totalement cramé. Et c'est là où j'ai appris que les UV traversaient même... C'était pas, c'est la jeune fille hein, qui... L'avantage des Arabes, c'est que donc, plus de temps à cramer.
Bien l'avantage.
Mais elle était totalement... et je n'ai plus aucune nouvelle, pareil. C'est le même truc.
Mais paraît qu'elle est toujours à l'hosto.
Elle est toujours...
Tu l'as laissée là-bas.
Toujours, hein.
Avec ses cloques.
T'es bien gonflé.
Opération bien fine, hein.
C'est un souvenir d'enfance, Cyprien, ce film Magma. Vous avez quel souvenir, justement, des Antilles ?
Oui, moi, j'avais 12 ans, et c'était donc c'était en Guadeloupe. Et j'aimais bien la montagne, j'aimais déjà les volcans, et on m'avait promis qu'il y avait un super beau volcan, en fait, en Guadeloupe, qui s'appelle La Soufrière. J'avais très, très envie d'y monter. Je suis resté 2 semaines, et en fait, on l'a jamais vu, le volcan.
Bah, pourtant, on le voit de partout.
Elle était cachée. Dans les nuages
voilà.
Et dans les vapeurs. Et donc le dernier jour des vacances, on est quand même monté. Et en fait, ça a été une première expérience très... Moi, j'étais un enfant plutôt, timide. J'aimais lire. J'étais pas très aventureux, aventurier, quoi. Et là, en fait, j'ai rencontré un être vivant. Et ça m'a fait vraiment un truc très fort. Ça sentait le soufre.
C'est
j'ai
le volcan, l'être vivant.
Aimé l'odeur. Ouais, c'est le volcan.
Ça sentait alors, fort. Vous aimez l'odeur. Ça s'appelle l'œuf pourri.
Ouais, ouais. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est ce que vous croyez. Moi, je trouve l'odeur.
Ouais.
Très agréable en fait.
Ah ok.
Voilà, la plupart des volcanologues aussi aiment bien. Et puis bah.
Oui, enfin, ils vivent de ça. Théo,
c'est la même odeur, pardon, que quand on est près d'une station thermale, je sais pas, comme village, les choses comme
exactement.
Ça, d'accord. Ouais, donc ça sent. C'est quoi ça quand même.
Un peu mieux sur
non,
le.
Il aime bien. Arrête.
Il aime bien.
Il aime bien.
Chacun son truc.
Théo, quel souvenir vous avez particulier de des Antilles?
Une odeur.
Non, moi j'ai passé pas mal de temps là-bas quand j'étais petit parce qu'il y a toute la famille du côté de mon papa qui est là-bas et voilà, j'ai appris à nager là-bas.
Ah ouais.
Et
C'est vrai que là où on a appris à marcher ou à nager reste quand même gravé dans la mémoire, même si on n'a pas plus de souvenirs que ça, ça reste magique. Ouais.
Puis non, ça fait pas.
Donc plutôt des bons souvenirs.
Ouais, des très bons souvenirs.
Très bons souvenirs. Magma, c'est un mélange sans mauvais jeu de mots, mais il y a d'ailleurs plusieurs jeux de mots. Il y a plusieurs magmas. Il y a le magma du volcan, le magma social, et puis ce qui se passe dans la tête aussi des personnages. On va l'évoquer jusqu'à midi et demi. Mais d'abord, voici Old Laf, fan de vous.
C'est pour évidemment.
Fan de Théo Christine, un acteur qui connaît bien l'acting, mais bon, un boulanger maîtrise le boulanging tout autant que Liv Tyler connaît bien le lifting. Je suis fan de Cyprien Vial, bien plus fan que Jonathan Daval, un réalisateur de Tully, il est fan de Tulling, en tout cas il maîtrise le réalisating. Et vous êtes là parce que Magma sort au ciné, vous êtes comme deux parents qui présente leur bébé. Et un film catastrophe, c'est très rare et très chic. En France, ça nous change des films catastrophiques. Ouais, quand on parle du magma de La Soufrière, voyez ce que ça génère à France Inter. Ils sont venus, ils sont tous là. Et voir si c'est la folie, il va sortir le magma.
C'est bon ça.
Ils sont venus, surtout celui-là. Tous ceux de l'équipe de Nagui. Il y a Tristano, le fils maudit. Il y a Lisa, il y a Emma. Parce qu'il n'y a plus de petits gâteaux. C'est là qu'on voit sa dépendance. C'est le bordel dans le studio. Pour le magma, il y avait aussi Leila. Maintenant, grâce au fond, est fort en magma, aussi fort que Théo est fort en Christine. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Charles de Laf.
Ah, vache. Là, je fais. Alors ce soir.
Je n'ai rien dit.
Ah, pardon, c'était goofy de ma part, excusez-moi.
Non.
Ce soir à Odergheim, en Belgique, demain à Neuve Maison, le 23 à Massy, et le 23 mai à Rennes, le 24 mai à Nantes, le 25 mai à Bordeaux,
oui, ça
pour
va
la tournée des humoristes France Inter.
Évidemment.
Tournée des
et je vais faire le début.
Magma, Cyprien, la première scène du film, c'est un souvenir d'enfance, c'est-à-dire ce être dans la nature, parce qu'il y a un personnage qui compte, évidemment, c'est ce volcan, c'est cette nature, et c'est d'être perdu au milieu de cette nature et de n'avoir que des sons et des odeurs.
Ouais, un peu comme dévoré par la nature, quoi.
Vous auriez aimé que le film soit en odorama ?
Ah, j'aurais adoré. Trop bien.
Pas nous.
Mais personne serait venu.
Ah bah si, c'est pas le fourri, tu as dit. Il y a dans ce film aussi, Théo, Christine, une idée de transmission entre la volcanologue Marina Foïs et le jeune César que vous interprétez, ne sachant pas d'ailleurs où il va faire carrière, contrairement à elle qui projette de partir à l'autre bout du monde.
Ouais, puis c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans le personnage d'Aimé, c'est qu'au début on dirait qu'il veut la suivre et qu'il veut aussi lui aller explorer un petit peu tous les volcans du monde, et au fur et à mesure du film, il va se rendre compte que c'est autre chose qui est plus important pour lui.
Il y a une question d'identité hyper forte avec ce volcan, il y a une histoire du sol, il y a une histoire aussi de la France,
et de la famille, du rapport à
l'autorité que vous mettez en scène dans le film, Cyprien.
Ouais, carrément, il y a
Mathieu Demy qui
préfet.
Non mais on
allez-y.
Peut...
Ouais.
Dites-nous ce qu'on peut dire et pas dire, parce que c'est vrai
qu'on peut dire que Mathieu Demy incarne le préfet, qui est l'autorité sur l'île. À laquelle se confronte le duo de volcanologues du film.
Quelle est la tension née de ce moment d'ébullition, de fumée, de magma, de risque, de danger, et donc de décision, de précaution que doivent prendre les autorités. Et tout est là aussi, c'est cette espèce de double décision entre la décision politique d'un côté et scientifique de l'autre.
Ouais, moi ce qui m'a touché en fait, c'est j'ai eu l'idée du film pendant le confinement, parce que j'étais hyper touché par des infectiologues qu'on voyait à la télé, notamment des femmes. Je me souviens, il y avait Karine...
Ah oui, je vois très bien qui était... Non.
Alors pas celle-ci.
Je vais la chercher.
Karine et Anne-Claude Crémieux. En fait, j'étais hyper touchée parce qu'elles avaient un discours très solide, très argumenté. J'avais l'impression qu'elles disaient vrai, en fait.
Karine Lacombe.
Qu'elles disaient qu'elles étaient les mieux placées pour nous expliquer ce qui se passait. Mmh. Mais le fait qu'elles ne décident pas, en fait, me les rendait très... Enfin, je trouve qu'elles étaient dans une position hyper... dur en fait, ouais. De savoir et de pas décider. Et donc le duo du film, il sait, mais il n'est pas en mesure de décider, en tout cas jusqu'à un certain point.
Finalement, il y a le thésard qui est très, j'ai envie de dire, scolaire, en disant, il est testé d'ailleurs tout le long, Marina Foïs, ça n'arrête pas de l'interroger, enfin le personnage, de l'interroger en disant, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et lui dit, en fonction des appareils, en fonction des relevés, en fonction de ce qu'on ressent, en fonction du vent, il faudrait évacuer la population, parce que là, ça commence à bouillir, ça commence à être dangereux. Et elle est plus, on va dire, expérimentée, puis elle dit, on va quand même pas évacuer tout le monde non plus. Parce qu'il y a un souvenir des années 70, 76, où
en fait, il y a une double injonction.
Et Claude Allègre, c'est ça.
Pour ces volcanologues, c'est qu'à la fois, ils doivent essayer de protéger les gens, donc qu'il n'arrive pas malheur aux gens, quoi. Et en même temps, protéger les gens, c'est.
Et pas leur faire peur.
C'est éviter qu'ils se prennent, qu'ils meurent à cause du volcan, mais c'est aussi ne pas les faire évacuer pour rien. Parce que.
Perdre leur emploi, perdre tout ce qu'ils ont.
Perdre la maison, l'emploi. Ouais. Et en fait, le film est inspiré d'un événement assez moche qui a eu lieu en 1976 en Guadeloupe.
Où il y avait une guerre entre Arun Tazieff et Claude Allègre.
Il y a des scientifiques qui se sont. Il y a eu une polémique assez vaine, en fait. C'est vraiment un événement assez pourri, quoi, jusqu'au bout. Et moi, l'idée du film, c'est vraiment d'essayer d'inventer un nouveau récit positif qui permettent à qui voient émerger deux figures de fiction, mais qui fabriquent quelque chose de plus humainement acceptable, quoi.
Il faut dire que votre personnage Théo est aussi à une part de son cœur sur cette île. Il y a ses parents, donc en fait, prendre une décision d'évacuation ou pas, elle est forcément, en tout cas nous en tant que spectateurs, on se dit qu'elle est forcément influencée par la présence de ses parents. Et la position du personnage de Marina Foïs, au contraire, on se dit elle est peut-être trop détachée, peut-être qu'elle aime un peu moins, qu'elle est moins d'ici, et donc donc qu'elle
elle
prend.
Aime moins les politiques, en tout cas.
Elle aime moins les politiques, elle pense à la population, et en même temps, qui est-elle pour... Enfin, c'est un peu ce qu'on lui reproche, c'est pas d'être de là, en fait.
Elle croit un peu, elle croit un peu qu'elle est ici, et le film, c'est son apprentissage. En fait, chacun va trouver sa place pendant le film, au travers de cette crise.
Je pense que le personnage de Katia se rend beaucoup plus compte de la difficulté des répercussions que ça peut engendrer, ces déplacements de population, alors que, étant plus jeune, je pense qu'Aimé, au début, est aussi beaucoup plus... volontaire sur ce truc de vouloir directement protéger la population. Oui. Donc s'il y a le moindre risque, eh ben évacuons les gens. Mmh. Voilà.
Sauf que le risque d'évacuer, c'est de ne plus habiter chez soi petit temps, de ne
pendant
plus
des
avoir
mois.
L'activité professionnelle non plus.
Mmh. Et vivre dans des conditions assez...
Voilà, puis il y a une scène, on est dans un bar sur une plage avec et presque le reproche fait aux volcanologues, c'est rassurer les touristes là, parce qu'ils consomment moins, ils commencent à s'inquiéter. Ouais. Et on a besoin que tout aille bien pour continuer. Donc il y a une responsabilité de
économique aussi.
Économique, et puis aussi amicale, familiale,
sociale,
qui est très importante. Le magma est aussi dans votre tête. Vous savez pas trop quoi faire, à quel moment, quelle décision prendre dans votre vie.
Moi, Théo Christine ou...
Non.
Moi aussi, parlez-nous de vous.
Visiblement, vous aussi, oui.
La docteure Lisa.
En fait, il est déchiré entre faire carrière et garder l'attachement familial.
Ouais, c'est que, comme je disais tout à l'heure, au début, il est, je pense qu'il se projette aussi sur Katia, qui, elle, a pour projet d'aller sur d'autres volcans, par exemple, celui de la Réunion, tout ça. Et donc il a envie aussi de gonfler sa carrière de la même manière que la sienne, et je pense qu'au bout d'un moment il se rend compte que, et il s'affranchit aussi un petit peu du joug, je veux dire, de Katia.
Oui, qui est un peu sa maman,
qui est un petit peu sa maman volcanologue, et celle qui lui a montré les ficelles, et qui l'a aussi un petit peu sorti peut-être d'une vie où il aurait pas forcément trouvé sa voie. Et mais en fait, au fur et à mesure du film, et c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi sur le personnage d'Aimé, c'est qu'il va trouver vraiment son identité et ce qu'il veut faire, et notamment
Magma
sur son île.
Dans un décor impressionnant, parce que la nature est très présente, les animaux aussi, on va en parler aussi dans quelques instants, réalisé par Cyprien Vial avec Marina Foïs et Théo Christine, c'est au cinéma le 19 mars prochain, et un film sur les volcans, c'est pas si fréquent, et d'ailleurs Lisa Delmoitier n'aurait pas fait comme ça. Pourquoi vous n'avez pas fait ça comme ça, vous ?
Non, je n'aurais pas fait ça comme ça. Le timing est confondant. On parle d'un magma rouge, bouillonnant, menaçant de sortir à la surface d'un jour à l'autre, et tout ravager sur son passage, pile pendant ma semaine prémenstruelle. Que mon entourage aussi a pour ordre d'évacuer.
Je pensais à Poutine, moi.
Non. Je rappelle que c'est moi, hein, donc c'est moi. À croire que vous saviez que j'appelle mon utérus le Vésuve. C'est fou, ça.
Oui.
En réalité, c'est pas très correct. Le Vésuve est un volcan gris qui crée surtout des dégâts avec ses cendres, et je ne déverse pas de cendres. Voilà. Patience, Lisa. Les écoulements de cendres, c'est à la ménopause. Non. Sachez que l'éruption de mon magma est donc prévue pour le 14 mars.
C'est
ce cycle-ci, jour de la pleine lune. Ça ne m'étonne pas, je me sens très alignée en ce moment. Et 14 mars, qui est aussi le jour de l'anniversaire de Philippe Poutou. Voilà.
C'est demain. Hein.
Quand je vous dis que je suis alignée en ce moment, oui, c'est demain. Oui, c'est dans le contrat, quand on commence à bosser pour France Inter, on est obligé de synchroniser notre cycle avec un candidat de gauche. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que le terme magma est métaphorique. Hein. Certes, votre film, Cyprien, parle de l'éruption d'un volcan, mais on parle aussi de l'éruption sociale que cette catastrophe entraînerait. Une catastrophe naturelle révèle toujours les dysfonctionnements qu'on croyait endormis. Hein. Prenez l'herpès, par exemple. Non, mais c'est toujours en période de stress que t'as une poussée d'herpès. Ça révèle tes déséquilibres. Mais la nature et la société sont aussi liées. Vous avez vu comme le Covid a mis le doigt là où ça faisait mal ? On s'est battu pour du PQ. En même temps, avec tout le pain qu'on a bouffé, je suis contente de voir que je suis pas la seule à avoir du mal à digérer le gluten. Cela dit, le magma métaphorique, en tout cas, c'est peut-être bien quand il sort, non ? Hein, quand la société est en colère, quand on est en colère individuellement, on a tous de la colère qu'on sent bouillonner en nous. Et même si elle peut faire des dégâts sur son passage, moi je pense qu'elle doit sortir. Moi, parfois, quand je suis en colère, je crie dans un coussin pour libérer la colère. Ah ouais. Ça fait du bien. Bon, si ce n'est que je suis bannie de la maison de la literie. Enfin, bon. Autre façon pour moi de libérer le magma de colère enfui dans mes tripes, je casse des choses. Ah, j'adore ça, je casse plein de choses. Surtout des couilles, principalement. J'adore ça, je fais du sport aussi. Moi, je vais à la salle de sport et je soulève des trucs très lourds, comme des poids ou ma blague utérus Vésuve. Enfin, que des trucs bien lourds. Non, mais le magma doit sortir, et c'est la menace du film. Et métaphoriquement, votre personnage, Théo Christine, ce jeune chercheur, en volcan. Parenthèse, mais c'est quand même fou le métier de volcanologue. Hein. Le seul moment où tu rentabilises ton diplôme, le seul moment où ton job devient excitant, c'est quand les gens vont crever. C'est quand même un drôle de paradoxe, quoi. C'est comme quand t'entends des médecins parler entre eux. Oh non, c'était chiant aujourd'hui, que des angines. Mais vivement demain, on a un type avec des bras arrachés qui saigne des yeux. Oh ce master en 66 ans pour rien. Et votre personnage de chercheur en volcanologie, ben il va aussi sortir ce magma qui bouillonnait en lui en s'affirmant dans cette crise parce qu'elle la concerne. T'es jamais autant motivé que quand un sujet te touche. Hein. Vivement le jour où je devrais écrire une chronique sur le biopic d'une petite Belge un peu morose. D'ailleurs, de la motivation, quoi. Tous les experts devraient être concernés par les crises. T'as déjà vu les politiciens qui nous parlent de leur plan de lutte contre la pauvreté puis qui te disent qu'un croissant coûte 10 centimes. Bon, tu te doutes un peu de leur motivation. Bon, ça dit, je sais pas non plus combien coûte un croissant, mais je vous l'ai dit, je digère pas le gluten. Bon, et sur ce, je vous laisse. Plus que deux jours avant mon éruption, la colère monte. Je dois aller casser les couilles. Ouais,
retour de Lisa sur scène.
Et ça.
Et absolument, le 9 avril, un gala en faveur des femmes sans-abri. C'est Lilo à Bruxelles.
Exactement.
Bravo. Et voilà, c'est pour la noble cause. Autrement, bravo. Une cause toujours aussi noble, le 23 mai, elle sera à Rennes pour la tournée des humoristes. Mais une autre cause. Une autre
en
cause.
Faveur de Daniel Morat.
Oui, s'il vous plaît, j'ai besoin d'argent.
C'est pour Daniel, là.
Théo, Christine, est-ce que ça a été sportif le tournage de ce film? Parce que il y a le point de départ finalement de toute cette angoisse au-delà du conflit entre les vulcanologues et les politiciens, c'est que les appareils ne fonctionnent pas bien, donc il faut aller sur place.
Mm-hmm. Ouais, je pense qu'on est monté entre 4 et 5 fois en haut, donc deux fois tout en haut, et ouais, c'était sportif, c'était surtout unique en fait, parce qu'on s'est retrouvé à, parce qu'en fait faut savoir qu'il y a tout un accès qu'on peut prendre, où on peut y aller en pick-up, et au bout d'un moment on est vraiment obligé de monter à pied comme une rando, quoi.
Et il y a des chemins entre guillemets, c'est balisé, c'est sécurisé.
Ouais, il y a des chemins, c'est un peu il y a le chemin des hommes qui est très dur, ouais. Et le chemin des dames qui est plus tranquille.
Mais non.
Pas encore totalement
déconstruit. Ouais. On va aller changer le panneau.
On a milité pour un changement. Mais...
Ouais, ouais. Pas de chemin IEL, donc.
En plus.
Mais du coup, ça fait qu'on se retrouvait tous vraiment à porter le matos. Voilà, il y avait les caméras à porter, les batteries, tout ça. Et c'était très physique et aussi très. Je sais pas comment dire ça.
Ils vous ont fait porter
des caméras.
Ouais, non, mais je l'ai fait.
Tu mens.
Mytho.
Non, mais ça nous permettait aussi à nous, avec Marina, de nous mettre vraiment dans la peau du volcanologue et vraiment de voir.
Ouais, parce que lui et le personnage a envie d'aller mettre les mains dans le magma. Il a envie d'en découdre avec la nature.
Bah ouais, parce que dans ce qu'on s'est raconté avec Cyprien, c'est vraiment un enfant du volcan, entre guillemets, qui a grandi vraiment en gravitant autour de ce volcan. Donc je pense que dans sa tête aussi, il y a personne qui connaît le volcan mieux que lui. Donc s'il s'agit d'y aller, même s'il y a quelconque danger ou risque, il va pas hésiter une seconde.
Vous avez déjà vécu... C'est une sorte de, pardon, personnage de mythologie, quoi. On a l'impression d'une sorte de sauveur de l'île. Il y a quelque chose comme ça dans votre personnage aimé, déjà. C'est toute une promesse par rapport à l'île, au fait qu'il va être le sauveur. Il y a un peu de ça.
Aimé, c'est ce qu'il y a de plus beau.
Ouais. Ah, c'est
vrai. Non. Pascal Obispo.
Voilà. Baptême, Cyprien.
Non mais oui, Théo, oui, il devient héros.
Ouais.
Où il est dangereux parce qu'il veut être héroïque.
Ils n'ont pas trop non plus, hein.
Non.
En fait, c'est ça.
Est-ce qu'il est dangereux en voulant être héroïque finalement, en voulant prendre des risques, en voulant se confronter à la nature, parce que la nature gagnera toujours.
Je pense qu'il est dangereux pour lui-même en tout cas à ce moment-là, mais je pense pas que sa sécurité et sa vie sont en priorité dans sa tête.
Ouais, le héros généralement pense rarement à sa sécurité, quoi. Il y a un
sacrifice.
Ouais.
Il y a une tradition du héros. Enfin, je me suis amusé à inventer Aimé en m'inspirant des grands héros guadeloupéens et certains d'entre eux ont donné leur vie vraiment pour sauver l'île, quoi.
Ouais, puis c'est en fait il devient héros, mais c'est sans le vouloir et c'est vraiment en étant passionné et en voulant vraiment. Mettre
à contribution
voilà, son savoir et ses connaissances du volcan.
Oui.
Merci.
Une musique très synthétique, peut-être froide par rapport à la chaleur du volcan et à la tension.
Il fait froid sur le volcan. Hein.
Alors je ne sais pas.
Ouais.
Oh.
Ah, il fait frais. Hein.
On est à quelle altitude?
On est à 1900 à peu près.
Ouais.
Ok.
1800, 1900. Ouais. Mais il fait frais à partir de 1500, c'est la montagne, c'est cool. Ouais. Parce qu'en bas, il fait super chaud, il y a une grosse différence de température.
Et il y a le son, et il y a ce grondement permanent. Est-ce qu'on s'habitue d'ailleurs quand on vit autour d'un volcan?
On l'entend que quand on est dessus. Hein. En bas, on n'entend pas le grondement.
Ouais.
Non, on voit la fumée par contre.
Ouais, il y a toujours un petit...
Fumerole.
comme une, c'est d'où l'expression, comme une menace, comme une épée de Damoclès pour
ouais,
dire
ou comme un signe de vie.
Je suis là, ouais, c'est ça. Ouais.
Elle est vivante, elle a ses humeurs. Parfois il y a beaucoup de fumée, parfois moins.
Vous êtes beaucoup documenté parce que il y a une intrigue. La première intrigue personnelle, c'est quel est l'avenir du personnage de Théo Christine. L'autre intrigue, c'est quelles sont les décisions au sein du couple du duo de volcanologues. Le rapport à la politique, la réaction de la société, le danger de ce volcan. La nature est très présente et vous l'avez filmé. On sent avec beaucoup d'amour. Et puis les animaux. Or, ça commence mal, parce que le premier animal que l'on voit, il est plutôt mort.
Mais aucun animal a été maltraité pour ce film.
Pour le tournage, ouais. C'est écrit dans le générique. Ouais.
Le premier animal, c'est une mangouste.
Ah, voilà. C'est une mangouste qui est étouffée par les dégagements de gaz.
Ouais.
Et qui est le premier signe, c'est-à-dire que ce sont les animaux, c'est la nature, qui réagit avant même les appareils des vulcanologues.
Ça arrive que la mort d'un animal. En fait, je me suis inspiré, j'ai entendu parler d'histoires de raccoons, les ratons laveurs. Il y en a beaucoup en Martinique. Et c'est arrivé qu'on trouve des raccoons morts sur la montagne Pelée. Et que ça aide un peu les scientifiques à savoir un peu où chercher. Oui. Donc voilà.
Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est fiction dans votre...
En fait, c'est vraiment une fiction, c'est très simplifié,
avec
vulgarisé.
Beaucoup de points de réalité.
Mais avec plein d'éléments réels. Peut-être il y aura la visite d'une volcanologue à un moment dans l'émission.
Absolument, absolument. Je vois qu'on vous a prévenu. C'est Marina Rosas Carvajal qui sera notre invitée tout à l'heure et qui va nous parler du métier de volcanologue et des volcans encore en action un peu partout dans le monde. On va évoquer la sortie encore de ce film jusqu'à midi et demi. Il sortira le 19 mars et c'est Magma. Voici venir Monsieur Tristan Lopin.
Ah oui,
c'est bien aujourd'hui.
Trump est un fervent défenseur de la liberté d'expression. Voilà, j'avais lu quelque part que plus on raconte de conneries, plus les gens sont attentifs. Bah, clairement, je crois que j'ai capté l'attention de tout le monde. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Donald Trump craint que la liberté d'expression ne soit en danger en Europe. Trop d'empathie, Donald. Et il n'y a pas que lui. Cyril Hanouna, pauvre pitchoun, trouve aussi qu'on ne peut plus rien dire. Je me souviens, il l'a dit à la télé après avoir demandé à une de ses chroniqueuses de fermer sa gueule parce qu'elle donnait son opinion sur un sujet sur lequel il n'était pas d'accord. Contredire un adepte de la liberté d'expression, quelle folie. Du coup, un peu perdu pour pas vous le cacher, j'ai regardé la définition dans le dictionnaire. La liberté d'expression donne à chaque personne le droit d'exprimer ce qu'elle pense, même si ça ne plaît pas, sans crainte de punition, tant que c'est dans le respect des autres. Une définition que j'invite donc bon nombre de nos chers auditeurs ou concitoyens derrière leur smartphone à relire ou à réécouter dans cette même chronique. On a bien dit dans le respect des autres. Bref, soucieux que cette liberté chère à toute démocratie ne soit jamais entachée, Donald Trump, président de la première puissance mondiale, a donc transmis aux agences fédérales une liste de mots à retirer des sites web accessibles au public. Certainement, j'imagine, dans le but de rappeler aux gens qu'ils ont le droit de donner leur opinion, mais toujours dans le respect d'autrui. Voici donc un petit extrait de la liste en question. Crise climatique, Golfe du Mexique, sexe, féminisme, trauma, noir, discrimination, privilège, égalité, diversité, racisme, inclusivité, victime, transgenre, victime, activisme. Bref, autant vous dire que faire une chronique sur France Inter, pour moi, ça deviendrait compliqué. Il y a gay aussi, et même le mot femme dans la liste des choses dont on ne doit pas prononcer le mot. Femme au pluriel.
Ah oui.
Histoire d'être vraiment sûr d'invisibiliser toutes ces vieilles folles qui réclament des droits tout le temps, là. Ah, c'est vrai, quelle flemme. Emma, Lisa, on serait pas super heureux, nous, déjà, d'avoir le droit de masser la main des masculins après qu'ils aient fini de se branler sur la liste de leurs privilèges?
C'est si grave.
Mais voilà. D'autant qu'il vaut mieux s'habituer à tout ça, parce que vous savez, depuis l'élection de Trump, bon nombre de marques, de groupes font marche arrière. Oh non, parce que nous, quand il y avait des ronds à se faire en créant du contenu féministe, en vendant des crop tops et qu'on pouvait vendre des produits Rainbow en juin pour le mois des fiertés, ok, mais là, le vent il tourne. Et comme la veste de Manuel Valls ou François Bayrou qui se retourne, les entreprises changent de stratégie. Chez Google, ils ont supprimé de leur calendrier des fêtes la journée des droits de la femme, l'Afro-American History Month ou l'Holocaust Remembrance Day. Aujourd'hui, il y a des marques qui refuse de s'associer à certains combats jugés trop clivants pour éviter de se fâcher avec ceux qui détiennent le pouvoir et donc l'argent. Des fous, majoritairement, si on regarde le monde dans lequel on vit. Notre quotidien, c'est quand même devenu un épisode d'une série super angoissante qu'on n'aurait même plus envie de regarder tellement elle est devenue anxiogène. Parce que finalement, c'est trop clivant, c'est pas un média ou un politique qui balance des fake news. C'est trop clivant, c'est surtout être woke. Et être woke, c'est quoi? Ça veut juste dire être éveillé aux injustices que subissent les minorités. C'est pas grave, en fait. Hein. Apprendre à mieux vivre et à mieux écouter les autres, c'est pas une maladie. C'est du bon sens, mais que voulez-vous? Le bon sens, c'est pareil que c'est clivant. À croire que vraiment, on peut plus rien dire.
Bravo, bravo.
C'est vrai qu'il y a toute une tendance maintenant de se servir de ce mot woke qui est éveillé. C'est Martin Luther King qui s'en était servi aussi comme étant une insulte en disant voilà, c'est un grand reproche. Bravo. Tristan Lopin, c'était bien ton voyage avec Frédéric Lopez?
Ah, c'était très bien, ouais. Merci, c'est gentil. Ouais, c'était super.
C'était où?
En Afrique du Sud, dans la savane.
T'as pas suivi?
Non, j'ai pas suivi.
Des millions de gens qui l'ont suivi. Magma, c'est au cinéma. C'est au cinéma.
Je suis pas assez beau, Claire.
Et ça sera le 19 mars prochain. Oui, on va parler encore de ces volcans. Est-ce que, puisque vous avez grandi dans les Antilles et que votre famille y a passé, est-ce que c'est vraiment une peur réelle qui existe ou on vit avec, Théo Christine? La présence de ces volcans, parce que finalement chaque île, que ce soit la Réunion, Martinique, Guadeloupe, d'abord les îles sont faites d'éruptions volcaniques, donc elles ont chacun leur volcan avec leur volcan avec ce danger, cette rumeur, ce passé, ce souvenir.
Mais en fait, je pense qu'il y a déjà une grande différence entre les villes qui sont vraiment construites autour du volcan et les zones qui sont vraiment plus éloignées. En Guadeloupe, il y a toute la partie de Grande Terre qui est vraiment de l'autre côté de l'île, où c'est beaucoup moins présent, et même dans la tête et dans la mentalité des
donc
gens,
moins dangereux.
C'est moins dangereux et ils y pensent beaucoup moins.
Il y a des risques sismologiques ou sismographiques dans la Grande Terre, donc il y a quand même des dangers aussi qui sont pas les mêmes, quoi.
Ouais, mais je veux dire, les gens là-bas ne le savent
pas.
C'est ça. C'est plus du tremblement de terre que le volcan en lui-même qui peut faire peur, entre guillemets.
Après, je pense que les gens de ma génération, les plus jeunes, ont pas forcément connu ce qui s'était passé en 76 ou même en 1902 sur la montagne Tolée.
Il faut juste se rappeler que beaucoup de familles avaient été déplacées par mesure de précaution et de sécurité.
Très longtemps.
Et qui n'avaient pas retrouvé ni leur maison, ni leur boulot pendant.
Non, il y a même des familles qui sont jamais revenus sur la basse terre, et justement, ces gens étaient souvent appelés les magmas par les gens de Grande Terre, et c'était un terme assez péjoratif.
Et ça change quoi dans la mentalité des anciens, justement, de savoir de vivre avec ce volcan, de vivre avec cette menace qu'on apprivoise, j'imagine, avec le temps, parce qu'il n'y a pas le choix.
Ouais, c'est marrant, il y a un couple de personnes âgées dans le film qui habitent vraiment à l'endroit où.
Qui ne veut pas partir.
Ouais, qu'on fait en sorte de pas déloger, ils veulent pas bouger. Et en fait, ce couple dans la vie, il a une espèce de résilience ou de, on parle du volcan, déjà on le personnifie.
Oui.
Et puis c'est comme ça. Si vraiment ça devient extrêmement dangereux, alors on bougera. Mais voilà.
Il y a un peu
Dites-nous.
Je sais pas, il n'y a pas de peur en fait.
Un fatalisme, c'est comme ça fait partie de la donne.
Ouais, vraiment, si on verra de la lave tomber de partout, on partira, mais sinon, on a toujours vécu de cette manière-là. Ouais.
La musique fait peur quand même par moments.
Un petit peu.
Oui, elle est inquiétante. Ouais. C'est vrai.
La musique dans vos vies, on va évoquer donc avec Marina Rosas Carbajal le métier de volcanologue. Dans la bande originale, la musique, on va commencer par vous, Théo Christine. Vous écoutiez dans les années, fin des années 90. À la naissance.
Ouais. Non, mais c'est qu'il est mort en 96, donc j'ai vu 96, j'ai vu Tupac.
Naissance à La Roche-sur-Yon, Théo.
Ouais.
Et vous faites un parallèle entre la Vendée et la Martinique.
Ouais, je passe beaucoup de temps en Martinique, dans la famille du côté de mon père.
Ouais.
Quelques années. Et après, je reviens en Vendée.
Mais c'est la même chose finalement. Il y a la mer. Il y a les côtes.
Je me souviens d'un moment où on revient en plein hiver, donc non, c'est pas la même chose. Mais en fait, je me retrouve surtout avec le surf que j'ai commencé en Martinique, et comme en Vendée, on habite.
Alors, Théo, de la côte. Devant Leila, il faut parler basket.
Faut pas parler
surf. Basketteuse.
Ouais. On envoie toute notre force à Victor Wembanyama.
À fond.
Et vous, vous avez
et
fait...
on supporte le Paris Basket aussi, parce qu'on est à Paris. Ouais, bien sûr. Et là, ils ont fait quand même quelques défaites d'affilée, il faut quand même les soutenir.
Vous rêviez de NBA?
Moi, je rêvais de NBA. Mon premier sport, ouais, ça a été le basket. Et ouais, j'étais très fan de Allen Iverson, Tony Parker, tout ça à l'époque. Mm. Et c'était mes premiers rêves de.
Et vous jouez quel poste à l'époque?
Meneur.
Ouais.
Mais j'ai grandi très très tard en fait. Moi, mais j'ai une poussée de croissance à 19 ans.
Donc et ça, avant, c'est handicapant dans les étapes de sélection, en fait.
Ouais, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait une sélection où il fallait trois oui, physique, esprit d'équipe,
taille.
Ouais, non. Taille.
Ouais.
Et j'avais eu deux oui et un non sur la taille.
Ouais, c'est dur. Coup, ça.
C'est très dur. Très dur.
1m82, c'est pas assez pour jouer au basket?
Bah, pas forcément. Bah,
dans les équipes, moi j'étais la plus petite.
Non, mais
petite,
hein. Tony Parker, je faisais 1m60.
Non, mais Tony Parker, il était autour de 1m80 aussi, non?
Je pense qu'il fait 1m91. Hein,
ouais, ouais, ouais.
C'est un petit.
C'est un petit grand.
Par rapport aux autres,
c'est un petit grand.
Oui, mais après, c'est aussi une histoire de croissance. C'est-à-dire que les garçons, ils ont une croissance parfois tardive. Et ce qui fait que c'est handicapant quand c'est tard comme vous.
Mais je crois qu'aujourd'hui, ils ont des moyens de voir, de prévoir un peu cette croissance.
Comme pour les footeurs.
Dans cette même période des fins des années 90, vous écoutiez Cyprien. Que se passe-t-il dans la vie, Leïla, de Cyprien Vial?
Bien, vous évoluez entre le théâtre et les secs. C'est un peu ça.
Ouais.
Ouais.
Ouais, c'est un peu. J'écoute du rock, j'écoute beaucoup de rock indé aussi, hein. J'écoute les Pixies.
Mais faut pas justifier, c'est très bien.
La chanson que j'ai le plus écoutée, c'est celle-là.
Ouais, non, mais c'est bien d'être honnête, bien. Le théâtre, parlons-en. Vous suivez des ateliers de théâtre baroque.
Ouais, je faisais du théâtre baroque avec Eugène Green, qui est un metteur en scène, réalisateur de films aussi.
Isabelle Groulet, ouais.
Ouais, voilà. Et en fait, au théâtre baroque, au lycée, on jouait en vieux François.
Ouais, bien sûr.
Donc en roulant les airs.
Le sank. Voilà. On dit pas le sang, on dit le sank.
Ouais, ouais, voilà. Ouais. Exactement. L'alexandrin.
Et qu'est-ce que ça apporte de jouer, de faire du théâtre baroque?
Moi, j'étais un peu un ado quand même pas très à l'aise et un peu inhibé. Donc déjà, ça m'a aidé à un peu. Être sur scène, c'est toujours, ça fait du bien, quoi.
Ouais.
Et un petit, une activité collective, c'est cool aussi.
Avec l'ambition de faire quoi à ce moment-là de votre vie?
Rien du tout, en fait. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et
rien du tout, ça veut pas dire que oui.
Non, mais je savais pas. J'étais pas très mûr en fait par rapport à l'avenir. Et c'est vraiment pendant mes études de commerce que dans l'école, en fait, je m'intéressais pas du tout au cours, enfin la finance, c'était pas du tout mon truc.
Ouais, on voit pas le côté artistique dans les secs, hein.
Non, mais sauf qu'en fait, il y a des associations dans les écoles, et en fait moi je passais mon temps à filmer la vie de l'école ou la vie de Sergi Pontoise, et donc j'ai commencé à vraiment adorer être derrière la caméra. On avait des vieilles caméras hyper lourdes, c'était pour moi un truc assez physique, assez c'était intense, et donc voilà, je filmais, je faisais des photos. Et j'ai commencé à aimer, je sais pas, rendre les gens beaux, vouloir recapter des choses que les autres voyaient pas.
Observer les autres,
ouais. Oui.
Ça, ouais. En 2015, Théo Christine, vous écoutiez...
C'était la période de premier casting.
Il faut se motiver pour aller au casting.
Exactement, c'est ça. C'était le premier casting. Et je sais pas, à ce moment-là, chaque casting, c'est la vie ou la mort, quoi. Donc c'est l'opportunité qu'il faut saisir. Et je me mettais souvent cette musique.
Et puis le premier grand casting, c'est aussi réussir à intégrer les cours Florent.
Ouh,
je crois que votre sœur vous offre un stage d'été déjà.
Ouais, exactement, exactement. Après, c'est pas.
Il y a 2000 places, il y a beaucoup de candidats, il y a peu de places, je crois.
Non, en fait, il y a le cursus normal qui est accessible quand même.
Oui, facilement, mais la classe
facilement,
libre.
Facilement, et après, il y a le concours de la classe libre. Et
ça, c'est plus compliqué.
Je m'obsédais pas mal.
Ouais.
Ouais. Et ça, c'est beaucoup plus sélectif. Ouais, je pense sur à peu près 2000 personnes, il y a 20 places.
Oui.
Qu'est-ce que vous regardez comme souvenir?
La classe libre. Wow.
Bon, mauvais souvenir.
Ouais, non, vraiment, c'est génial. En fait, ça nous permet de travailler avec 20 personnes pendant 2 ans qui sont vraiment super motivées. On a plein d'intervenants, c'est assez intense, on se voit tous les jours.
Vous êtes restés potes?
Avec les gens de la classe libre? Ouais. Bon, il y en a quelques-uns, on s'est perdu de vue, mais j'ai vraiment créé certaines relations. Aujourd'hui, c'est mes meilleurs amis, ouais.
Et vous êtes compétiteur sur un terrain de basket comme dans une classe de théâtre ou pas?
Ouais.
Ouais, bien sûr.
Ouais.
En 2015, Cyprien Vial, vous écoutiez. Léonie Pernet qui fait la BO de Magma.
Ouais. Ouais, en fait, Léonie avait composé quelques morceaux pour mon premier film, Bébé Tigre.
C'est une copine donc?
Et bon, c'est une collaboratrice. Et en fait, il y avait un petit goût de, enfin, c'était pas assez, quoi. Donc, je savais qu'elle avait un, qu'elle aurait un goût pour l'atmosphère volcanique du film. Donc, je lui ai proposé de faire la musique de Magma.
Bébé Tigre, en effet, votre premier long métrage. De quoi s'agit-il? Quel est le pitch du film?
C'est un film, c'est une fiction, mais qui est assez, qui est, enfin, inspirée par la trajectoire de jeunes gens, d'un mineur isolé étranger indien. Donc, un jeune homme qui est arrivé en France. Envoyé par ses parents qui ont payé un passeur en fait pour qu'il arrive adolescent et
il vient pour gagner de l'argent et
il vient pour gagner de l'argent. Les parents ont énormément de dettes et donc bah la problématique du personnage c'est comment faire pour faire sa vie ici alors qu'il part avec un super mauvais avec une charge très dure pour son âge. Mmh. Et voilà. Donc c'est un film avec des ados et les héros sont des jeunes gens que j'ai rencontrés dans un collège où je faisais des ateliers.
2017, vous, Théo, Christine, vous écoutiez Ray Charles.
Georgia.
Ouais.
Georgia. Qui tranche un peu avec
Minem.
Non, mais c'est qu'il y avait le.
Et ouais, c'était ouais. La période d'NTM, ouais,
oui,
surtout
aussi. Voilà.
Ouais. En fait, je regardais plein de biopics musicaux et j'ai vu Ray qui m'avait vraiment une claque et j'adorais écouter les musiques de Ray Charles.
Et alors pourquoi NTM, Leïla?
Parce que vous incarnez Joe Starr dans Suprême d'Audrey Estrugo, qui revient sur le parcours de ce groupe avec lequel on a un peu grandi quand même. Un film présenté hors compétition au Festival de Cannes. Vous parliez de Ray Charles, comment, en regardant les biopics, en tout cas les vidéos de Ray Charles, ça vous a quoi? Amené à mieux incarner Joe Starr dans NTM?
Ouais, je pense, parce que je l'ai trouvé tellement, tellement dingue, Jamie Foxx, dedans, que voilà, je me disais, il faut au moins que tu arrives à faire ça, même si c'est ton premier gros rôle, entre guillemets. Il y avait ce truc de véracité, et j'avais lu que. Il avait vraiment les paupières collées pendant qu'il jouait au piano pendant plein de scènes et qu'il s'était vraiment voilà, investi personnellement dans son travail et je voulais faire la même chose.
Et donc vous avez rencontré Joey?
Oui, ouais, assez rapidement.
Et qu'est-ce que vous avez pris de lui qui était sa signature? C'est dans le regard, c'est dans le sourire, c'est dans la posture.
Ouais, c'est dans le sourire, dans la générosité, dans le fait de je pense que vous l'avez déjà rencontré, d'arriver dans une salle et de voilà et de
et de prendre l'espace,
de prendre tout l'espace, toute l'attention, sans forcément le vouloir. Et mais après il y avait aussi
en jouant aussi sur l'inquiétude qu'il peut dégager aussi. Il arrive dans
l'inquiétude.
Il joue avec ça. Pas moi, mais comme il a eu des gestes un peu brusques avec une assistante, ça je pourrais jamais l'oublier sur un tournage d'émission. Il veut installer ce côté. Je suis pas.
Franchement, je sais pas s'il le veut ou pas, mais je pense que c'est sa manière d'être et qu'il le cache devant personne.
Bonnet M, c'est ce que vous écoutiez Cyprien à ce moment-là. On est en 2017.
Mais vous écoutiez beaucoup de rock à l'époque aussi.
Bien sûr. Toujours. J'écoutais Rage Against the Machine. J'ai beaucoup hésité avec Toxic, mais ça, c'est ce que j'écoutais pendant le confinement en fait.
Ah ouais, c'est vrai. Ça met la pêche.
Bah, pour avoir la pêche, ouais.
Ouais, ouais. Vous réalisez, vous co-réalisez et co-écrivez le scénario du film Embrasse-moi.
Oui.
Avec Océane Rosemary, devenue Océan. Mais à l'époque, c'était Océane Rosemary en 2017.
Océan.
C'était déjà Océan en 2017?
Non.
D'accord.
C'est Océan.
C'est Océan. Non, mais j'ai dit que c'était Océan. Ouais. Mais bon, je rappelle l'historique. Donc, c'est un travail à quatre mains.
Ouais.
Pour ce film qui a été nommé pour le prix Lumière du meilleur premier film où vous avez. Ensemble, vous aviez découvert quoi, la lesbienne invisible, c'était ça initialement?
Ouais, j'avais adoré le spectacle d'Océan, la lesbienne invisible. Et voilà, c'est des amis qui nous ont présenté et puis on s'est mis à bosser ensemble.
Retour au volcan, après avoir rappelé la date de sortie du film Magma, ça sera le 19 mars prochain. Avec vous, Marina Rosa Scarbajal, apparemment vous vous connaissez, vous avez travaillé ensemble?
On s'est déjà vu quelque part.
Oui, en fait, Cyprien m'a contacté tout au début de l'écriture du film. Il voulait avoir des précisions sur le métier des volcanologues, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre du terrain, voilà. Et tout de suite, moi, ça m'a plu, le projet. Du coup, on a interagi le long de l'écriture du scénario.
Vous êtes un rêve pour tous les enfants, parce que qui n'a pas voulu être volcanologue, être Haroun Taziev quand on était môme, c'est incroyable.
C'est souvent les parents qui me disent « Ah, mon enfant, on veut te rencontrer
». Est-ce que vous, enfant, vous vouliez faire ça déjà?
Pas du tout.
C'est pour ça.
Vous vouliez faire quoi?
J'étais plus maths physique. Ouais. J'ai fait ça comme étude. J'ai même fait une thèse là-dessus. Et c'est après ma thèse que j'ai fini par faire le métier de volcanologue.
Et pourquoi?
Parce que j'ai eu l'opportunité. En fait, je cherchais.
Oui, mais qu'est-ce qui vous a plu là-dedans, dans ce métier-là? Parce que j'imagine que les opportunités devaient être multiples et différentes chacune.
En fait, c'était l'opportunité d'appliquer ce que j'avais développé théoriquement à l'analyse des données. Et il y avait ces côtés terrain. Moi, j'aime le sport et la nature. Et je me suis dit, bon, bah, j'essaye. Et quand j'ai testé, j'ai adoré. Et du coup, j'ai construit ma carrière pour le CNRS après, suite à ça.
Alors, le métier, comment définir ce métier de volcanologue? Est-ce que c'est le docteur de la montagne? Est-ce que c'est l'observateur? Est-ce que c'est plutôt un technicien, une technicienne qui va analyser la moindre vibration, le moindre écho, la moindre odeur, fumée? Est-ce que tous les sens sont éveillés pour observer la nature?
C'est un peu ça, c'est un métier multidisciplinaire, si on veut. Il y a des experts en différents domaines qui étudient les volcans, et ils s'appellent des volcanologues. Donc il y a la partie chimique, donc étudier les gaz, les réactions chimiques à l'intérieur du volcan pour mieux comprendre ce qui se passe. Il y a la physique, il y a l'analyse des données, plutôt maths appliquées, informatique.
Donc, revenons à l'analyse, par exemple, des odeurs et des fumées. En fonction de l'odeur que dégage un volcan, en fonction de la fumée qui en sort, on analyse, on se dit... C'est pas la même fumée que d'habitude, c'est pas la même odeur que d'habitude, c'est vraiment ça qui fait que la nature parle?
Alors oui, mais pas les odeurs, on va dire les molécules qui nous on interprète comme des odeurs mieux humains. Oui. Mais les volcanologues ont des appareils pour surveiller l'émanation des gaz des volcans.
Ils n'ont pas toujours eu des appareils?
Non, pas toujours.
C'est récent.
Mais aujourd'hui on en a.
Okay. Donc ce métier est un métier qui a quel âge? Finalement, volcanologue avec des appareils. Est-ce que il y a toujours eu des volcanologues, même
des savants, un
siècle ou deux, ou c'est récent?
Oui. Je pense qu'il y a des savants qui étudient les volcans. Oui, je pense.
Et même Vésuve, les éruptions du Vésuve, ça a été documenté par des historiens, des auteurs latins. Donc Pline l'Ancien, Pline le Jeune, je crois.
Ouais, donc 2000 ans, si l'on veut.
C'était documenté parce qu'ils le subissaient, mais
je me prenais sur la tête.
Ouais, voilà. Est-ce que
c'est scientifique? Regarde la
description. Oui, mais la description de l'éruption. La montée de la fumée, voilà, ça c'est tout écrit et ça a servi après, voilà.
Ok, comprendre. Donc il y a cette partie-là, et savoir écouter, comprendre la nature. Ensuite, il y a les appareils. Il faut être informaticienne pour être volcanologue?
Non, pas forcément, mais c'est une partie importante, l'analyse des données. Après, il y a des géologues de terrain qui en fait, leur métier, c'est d'aller voir les dépôts des anciennes éruptions. Pour voir ce qui s'est passé dans les passés, combien de cendres, quelle répartition, des géographes voilà, qui étudient aussi, des historiens, il y a le côté social aussi, pour les plans d'évacuation, c'est pluridisciplinaire. Moi, alors, je suis plutôt dans la maths physique, mais il n'y a pas que ça. Voilà.
Et vous allez beaucoup sur le terrain?
Oui.
Et c'est dangereux?
Un petit peu, comme tout travail de terrain, mais on essaye de minimiser, oui.
Est-ce que vous descendez dans des cratères? Est-ce que vous vous approchez du magma?
Pas moi, non, parce que les volcans que j'étudie dans la Soufrière de Guadeloupe, le magma n'est pas visible, il n'y a pas le magma en surface, mais on installe des instruments pour mieux surveiller les volcans, pour faire des tomographies, comme un docteur fait pour les corps humains.
Qu'est-ce qui se passe si les instruments tombent en panne, comme dans le film?
On s'est débrouillé. Ouais.
Marina ne l'explique pas, mais moi je l'ai découverte sur Internet, dans une vidéo où elle descend harnachée dans un gouffre quand même assez impressionnant.
Ouais, comme,
en
comme,
rappel,
comme
dans un gouffre impressionnant de la Soufrière, quoi.
Un montagnard, mais pas de à l'intérieur de la montagne et pas à l'extérieur.
C'est sportif.
Ouais. Vous parliez donc du rapport aussi avec la responsabilité de la précaution à prendre par rapport aux populations. Là aussi, avec la gendarmerie, avec la préfecture, avec tout ce qui nous gouverne, vous avez des rapports et une responsabilité.
Alors pas moi et c'est pas le rôle des scientifiques
de conseiller les politiques,
de prendre des décisions. Donc voilà, nous on peut faire les conseils, on dit ce qu'on pense et l'état du volcan, on transmet aussi les incertitudes et après c'est les préfets qui prend la décision d'évacuer ou pas et qui évalue la situation d'une façon plus globale.
Vous n'avez aucun pouvoir de décision sur l'évacuation ou pas de la population?
Surtout pas.
Ah, surtout pas?
Ok. C'est pas mon rôle.
Est-ce que vous l'avez déjà vécu, ce genre de situation?
Non.
Okay.
Vous avez un volcan en particulier dans le film. On voit que le personnage de Katia est très attaché. Il y a quelque chose d'assez viscéral dans sa façon déjà de récupérer des cendres, des bouts de terre, de cailloux. Et on a l'impression que le plus grand danger pour un volcanologue, c'est d'avoir trop confiance en soi. Et vous, c'est quoi votre rapport à un volcan en particulier qui vous est...
Justement, la Soufrière de Guadeloupe, c'est le premier volcan sur lequel j'ai travaillé et sur lequel j'ai plus travaillé.
Oui.
Après, je suis argentine, je travaille sur les volcans en Argentine, donc je les aime beaucoup aussi. je pense que les chercheurs sont des êtres humains. Donc, il y a un peu ces rapports particuliers à chacun. Et je pense que là, c'est plus l'artiste, le réalisateur qui interprète ça.
Oui. Super. Merci beaucoup, en tout cas, Marina, et bravo, parce que c'est passionnant.
Ouais.
Et j'imagine que vous aussi, vous transmettez votre passion à des jeunes ou à des stagiaires qui viennent vous voir au CNRS.
J'espère.
À l'Institut de physique du globe de Paris. Voici Emma Beaujean tout de suite.
Salut tout le monde, je suis très contente d'être là. Je suis de bonne humeur notamment parce que ce matin j'ai eu mon producteur au téléphone alors qu'on continuera à appeler Alain tant qu'il n'aura pas quitté sa femme, genre. C'est un boost, un vrai boost d'ego de l'appeler. Vraiment pas plus tard que ce matin, il me disait: Emma, toi tu sais tout faire. Et je rappelle que notre relation est strictement professionnelle. Donc il a dit ça dans le sens: tu as beaucoup de talent, et pas franchement tu ferais même bander un moine. Oh là, et oui, un moment de solitude et un sentiment parfaitement inconfortable. On m'a dit que j'en avais le droit à deux. Que Lisa avait la moitié se sentirait moins seule à l'avenir. Bref, anyway, anywho, il a pas tort, Alain. C'est vrai que j'ai plusieurs talents. Par exemple, en fait, là, c'était de l'anglais. Comment vous dites en français l'expression je cherche un agent international? Comment vous dites je dirais que mon talent a des frontières, mais pas de limites. Et j'insiste sur le pas de limites. We have borders, but no limits. Hacer borderas, pero no limites. Et Artong, elle marche pied dans le train, elle saute. Bref, je sens que je vous ai pas cueilli mes petites pâquerettes du printemps. Bref, j'ai d'autres talents, bien sûr. Par exemple, celui de réussir mes lasagnes à chaque fois. Je te jure, ma puce. Celui d'oublier le prénom d'un mec quand c'est un très mauvais coup. Je sais pas pourquoi, ça s'en va de ma mémoire. Ouais. Ou alors chanter et jouer de la guitare en même temps. Un peu comme toi, Olaf Odel. J'ai oublié ton prénom. Un de mes talents les plus précieux, c'est quand même l'interprétation et l'imitation. Vous savez que là, tous autour de la table, je vous tiens tous. Vous voulez que je vous montre?
Allez,
c'est marrant parce que
allez.
Je me dis des fois je pourrais faire l'émission toute seule en fait. Ce serait des bars ou pas? On y va. Est-ce que let's go en régie on peut avoir le son? Non. Ok, la régie s'il vous plaît.
Je comprends pas, tu voulais la faire toute seule l'émission?
Oh
Emma,
là là,
la toute seule, vas-y.
Non mais c'est une dinguerie d'être susceptible comme ça. Damien, c'est une folie, oh là là.
Pas du tout Damien, mon prénom, désolé. J'aime la musique si tu te rappelles comment je m'appelle, hein.
Ok, pardon, sorry, Nicolas.
Allez, tu te démerdes ma grande.
Ok. Ok, bah, puisque je dois faire toute seule ici, c'est parti. Tout toulou, youtou toulou, toutou, le bon original, tout toulou tout. La bande originale présentée par Leïla Kadour et Nagui. Bienvenue à la bande originale et on est là jusqu'à midi parce qu'après moi j'ai rendez-vous avec mon avocat et mon comptable. C'est mes amis, donc vous prendrez le relais, Leïla. Et non, Nagui, on ne dit pas c'est mes amis, mais ce sont mes amis, car ils sont plusieurs, ce qui implique le pluriel et donc une concordance orthographique adéquate. Ah, mais t'as grave raison. Je suis trop grave d'accord, ma puce cache pistache. Merci Tristan Lopin pour cette intervention. Daniel, un mot, vous qui êtes en direct avec nous depuis chez vous.
Salut Internet, les voilà, followers, tout ça là, lol, elle est où la caméra? Attendez, ça enregistre ou quoi?
Eh oui, Daniel, on est en direct à la radio.
Ah, je vous entends, d'accord, mais vous êtes où là? Et je vous vois pas bien. Elle est là, Lisa Del Moitié? Non, Daniel, je me permets d'intervenir là. L'occasion m'en est donnée une fois. En fait. Alors, effectivement, Lisa Del Moitié n'est pas là. Voilà. Et alors, c'est marrant parce que, en fait, là, ce qui est marrant, c'est que j'utilise l'accent, tu vois, du belge, dans ce billet d'humeur. C'est ça qui donne le ventre mou à ce moment. Et non, effectivement, les frites. Moi, je suis Stromae. Ah, je suis l'invité de l'émission une fois. Je viens pour vous parler de mon dernier album, Papa Outé. J'adore la chanson.
Pom pom pom. Moi, c'est All the Love. Pom 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 pom. J'ai entendu de parler de chansons. Pom pom pom. Je mets des bracelets de force. Pom 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 pom. Et des t-shirts en lin avec un lacet au niveau du cou, comme un chevalier qui enlève son armure. Pom pom. Wow.
C'est vraiment atroce et parfaitement confortable. C'est la deuxième fois que j'ai atteint mon quota. Je vais rendre l'antenne. Merci de m'avoir écouté.
Bravo.
Emma Beaujean, toutes les Emma Beaujean, le vendredi 19h au Théâtre des Mathurins, à Bordeaux le 19 mars, elle sera le 23 mai à Rennes pour la tournée des Humoristes Inter.
Tanguy Vassureau nous a rejoint, bonjour, oui. De quoi vas-tu parler?
Coucou. Je vais vous parler, vous savez aujourd'hui sur France Inter, Feel Good, hein, c'est une journée spéciale Nouveau Désordre Mondial. Voilà, moi j'ai jamais vraiment trouvé en ordre le monde, mais voilà, pourquoi pas, donc je vais essayer de parler de ça.
Très bien, Magma est le film dont nous parlons aujourd'hui avec Cyprien Vial, son réalisateur, et Théo Christine, acteur principal, c'est au cinéma le 19 mars. La bande originale, Leïla Kadouboudadi, Lisa de Poitiers, Emma Beaujean, Old Love,
bonjour.
Tristan Lopin, Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Bonjour Tristan.
Et nos invités Cyprien Vial et Théo Christine.
Ah oui,
France Inter, la bande originale, Leïla Kadour et Nagui.
Théo Christine, héros de ce film aux côtés de Marina Foy, signé Cyprien Vial. Quand il vous a contacté, Cyprien, Théo, comment vous avez réagi? Vous avez lu un scénar ou ça a été une discussion les yeux dans les yeux où il vous l'a raconté de vive voix?
Non, j'ai d'abord lu un scénario.
Ok.
Et après on s'est rencontrés.
Et qu'est-ce qui vous a plu dans le personnage qu'on vous proposait?
C'était le fait de, déjà ça me tenait à cœur de raconter une histoire qui était antillaise, parce que moi on m'avait parlé beaucoup de comme j'ai grandi en Martinique aussi, de la montagne Pelée à l'époque, donc ça me ramenait un petit peu à ces histoires de volcans et des îles. Et ensuite ce qui m'a plu c'est cette trajectoire qu'a le personnage de vouloir avoir une grande carrière de volcanologue entre guillemets, au fur et à mesure du film, de vraiment se rapprocher de sa famille et de son île, et de vouloir
Et il y a une tension, il y a un suspense. Marina Foy et vous incarnez donc deux volcanologues qui voyaient cette fumée sortir, cette poussière commencer à envahir l'île avec faut-il évacuer ou pas. Ce suspense vis-à-vis de Mathieu Demy qui joue le rôle du préfet. Cette responsabilité finalement de demander à des personnes de quitter leur foyer, de se retrouver généralement dans une école, un gymnase, une maternelle. Enfin, c'est l'image que l'on a de ce genre d'évacuation, d'arrêter toute activité professionnelle. Ce suspense de savoir s'ils ont raison, s'ils ont tort. C'est le bras de fer aussi entre scientifiques et politiques qui vous a intéressé, Cyprien Vial, et c'est de filmer la beauté de l'île, de la nature, sur une toile de fond de suspense. Il y a quand même la beauté des paysages aussi.
On dit souvent que la Guadeloupe, les Antilles sont des territoires un peu oubliés de la République, ils sont
oubliés
du cinéma aussi.
Ouais, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire.
Et donc c'était à la fois hyper excitant de se dire qu'on allait faire un film intégralement dans une région où il n'y en a pas vraiment eu d'autres, en fait. Il y a eu des documentaires, mais des fictions, pas trop. Voilà, et c'est un endroit, le sud de la Basse-Terre, qui a été vraiment impacté par l'évacuation de 76. C'est un endroit qui est un peu, par moments, qu'on trouve fantomatique, en fait. Il y a moins de monde qu'il ne devrait y en avoir, qui a vraiment un mystère aussi en bas, quoi. Il y a le mystère du volcan, mais en bas aussi, c'est étrange. Et la nature est hyper puissante.
Toute cette tension, ce magma, justement, quand je parlais de jeu de mots en début d'émission, en disant qu'il y a différents magmas, celui du volcan, mais celui qui se passe aussi dans la tête de Théo Christine, celui qui se passe au niveau de la société.
C'est un territoire qui est très intranquille, en fait. Parce qu'il y a le volcan, mais il y a aussi des ouragans, des tempêtes, il peut tout le temps se passer des choses.
Malheureusement,
les gens sont hyper résilients, ils ont l'habitude, en fait. Donc nous, on a appris pas mal. Bon, toi, Théo, tu connaissais quand même la vie là-bas, mais l'équipe était composée de gens qui venaient de l'Hexagone et de Guadeloupéens. Et c'est vrai que même les Guadeloupéens, pour la plupart de l'équipe, vivaient dans le Nord. Et le fait de venir dans ce Sud, qui est en fait un terroir, quoi. Enfin, c'est une campagne, c'est la montagne. Ça nous réunissait.
C'est des ténèbres.
Même pour eux, il y avait un côté,
Et puis il y a aussi cette transmission, cette passation de pouvoir qui se passe entre Marina Foy et Théo Christine aussi, qui est
qui est l'un des sujets, une sous-intrigue entre guillemets de l'intrigue principale.
Dans la vie, j'ai pas eu beaucoup d'histoires d'amour ou de. Mais par contre, les histoires de liens, être le mentor de quelqu'un ou être mentoré par quelqu'un, c'est un. Enfin voilà, c'est quelque chose que je connais et que j'aime bien évoquer. Et dans ce film, j'ai voulu raconter comment le petit, le plus jeune,
entre Katia et Aimé, ouais.
C'est pas facile en fait de s'émanciper de quelqu'un qui est hyper, elle est power quoi, oui, Marina quoi. D'ailleurs, enfin voilà, Théo, je pense que tu l'as vécu aussi dans la fiction et dans le réel. C'est une comédienne qui envoie.
Et à quel moment l'élève dépasse le maître ou pas? À quel moment le maître est dépendant de l'élève?
Et à quel moment le maître laisse la place aussi.
Voilà, c'est ça.
Ouais, l'élève se détache.
Ça s'appelle Magma. C'est au cinéma ce 19 mars. Voici Tanguy Pastureau.
Hier, j'étais en train de boire un café Calva, sans café, hein, parce qu'il faut se méfier des excitants. Quand soudain, le bruit d'un SMS se fait entendre à l'autre bout de la villa. Le temps de m'y rendre, je me dis qui ça peut être. Emma Beaujean, qui m'écrit une fois de plus que je suis son mentor. Camaro, content que je l'ai cité cette semaine à l'antenne, ce qui arrive quand même si peu. Mon producteur, pour me dire qu'on a calé l'Accor Arena pour ma prochaine date parisienne, avec ce stress qui me prendrait alors, parce que je me dirais l'Accor Arena, jamais il y aura cette place là-dedans pour mon public. Hein, j'avance vers le téléphone, je le saisis, je regarde déception. C'est un message de JB, le rédacteur en chef de l'émission, qui ne s'appelle pas JB, mais Jean-Baptiste Bussière, on l'appelle JB, par facilité, et parce que ça donne l'illusion que c'est un copain. JB, ça fait pote de ping-pong. La phrase « je me suis mis une caisse avec JB », tellement énorme que dedans, on pourrait mettre les invendus de tous les bouquins de Marlène Schiappa, a déjà dû être prononcée. Alors que Jean-Baptiste Bussière, on a l'impression qu'on va voir débarquer un palefrenier dans un film en costume de Stephen Frears. Dégoûté que ce soit pas l'Accor Arena, mais juste JB, donc de rage, j'urine sur mon portable. En me disant, au moins, mon chien va sentir qu'il s'agit de mon territoire. Il va pas me piquer mon téléphone pour appeler Julien Courbet, au motif que le chat des voisins a mangé ses croquettes. Puis je finis par lire le message de JB. Il m'écrit « France Inter jeudi fait une journée spéciale nouveau désordre mondial ». La dernière journée spéciale, c'était le disco. Donc il n'y a plus de ligne éditoriale sur cette antenne, on est d'accord. Jeudi prochain, ce sera le jujitsu, le jeudi suivant, les chouquettes. Et JB m'écrit « ce serait bien qu'il y ait une chronique portant là-dessus dans l'émission ». Je réponds « ce serait bien, oui. Hein, j'ai pas envie de la faire. Mais JB m'écrit, j'ai pensé à toi. Il sait que j'arrive jamais à dire non. C'est ce qui m'a valu de perdre ma virginité à 24 reprises. À chaque fois ensuite, je me faisais recoudre avant que le 24e chirurgien me dise, mais vous savez que vous êtes un homme, il n'y a rien à recoudre. Et là, j'ai regardé, les autres m'avaient cousu sur le sexe des bouts de tissu, des chutes de jeans. Hein, c'est là que j'ai eu l'idée de faire ces films X chez Jules, qui marchent bien d'ailleurs. Bref, je dis à JB, ok, j'y vais. Mais c'est pas facile, je veux dire, le nouveau désordre mondial. Déjà, le titre est trompeur. Est-ce qu'un monde qui a généré la Saint-Barthélemy, les réseaux pédophiles, les fausses fleurs au fronton de toutes les terrasses de café, là, et les perches à selfie, a un jour été en ordre? Non. L'ordre n'est qu'illusion, comme dirait mon petit neveu de 16 ans quand je rentre dans sa chambre, que je crie à salaud de russe, attaquer le Val d'Oise, et qui me répond non, c'est juste que j'ai pas rangé depuis 2012. 64% des Français sont inquiets de voir le conflit militaire en Ukraine se propager chez nous. 64. Rien que le nom Poutine en est tendu. Dans mon spectacle, j'ai une blague sur Poutine, une sur Hitler, je vous jure, c'est le sur Hitler passe mieux. J'en ai une sur vous aussi, Nagui, les gens sont encore plus tendus que celle sur Poutine. Pourtant, je raconte rien de ce qui se passe ici, hein, je vous jure. Et puis nous, le souci, c'est qu'on a Emmanuel Macron. Je veux dire, ce type est plus anxiogène qu'un épilateur au laser quand c'est ton mari parkinsonien qui propose de te faire le maillot. Et il a dit, nous entrons dans une nouvelle ère. Au moment du Covid, il avait dit, nous sommes en guerre. Enfin, vous le mettez à la tête d'une cellule de soutien psychologique. Dans le quart d'heure, tout le monde se tranche les veines. Oui, Trump est arrivé. Oui, il change très vite d'avis. Un jour, il aime Poutine. Le lendemain, Zelensky. Après Poutine. Il était fait pour gérer les journées spéciales sur France Inter. Hein, oui, l'Europe se méfie de la Russie. Forcément, on est voisins. Donc, au cas où, bah, il vaut mieux se préparer. Vous connaissez le dicton. Équipez-vous vite de toutes les armes possibles pour leur mettre sur la gueule, Marcel Dassault. Forcément, on est chamboulé à cause d'Eddie Mitchell qui a passé 60 ans à porter des cravates western et l'effigie de Buffalo Bill. On pensait que les Américains étaient comme nous. Et aujourd'hui, ce sont nos ennemis. Mais s'ils font la paix, on sera à nouveau amis. Enfin, on ne sait plus. Il y a 3 jours, on parlait même de boycott des marques américaines en France. Coca-Cola est visé. Mais comment on va roter si on boit plus de coca? Et je veux dire, il va falloir tous qu'on retrouve notre mère, qu'elle nous porte à la verticale contre sa poitrine, comme quand on était bébé, mais enfin rien qu'ici, on fait tous entre 60 et 90 kilos. On va leur éclater la rate à nos mamans. Pédigré, Whiskas, Royal Canin sont dans des groupes américains. Donc Rachida Dati, elle va donner quoi à ces 12 Rottweilers qu'elle entraîne à attaquer en leur montrant des photos d'Hidalgo, enfin un plateau de fruits de mer? Alors oui, le monde bouge, mais il a toujours bougé. Il y a des guerres, il y en a toujours eu. Les alliances changent, elles ont toujours changé, mais nous, chacun de nous, on n'a qu'une vie. Donc essayons de pas sombrer face à cette actu chargée, plombante, terrible. Le secret, coupez les écrans, XBFM, tout. Mettez-vous pas toute la journée, pas tout le temps, mais un peu dans votre bulle, avec vos enfants, vos proches, vos poissons rouges, ceux que vous aimez, et tout de suite, ça va mieux. C'est parce qu'on est soumis à du breaking news permanent qu'on va pas bien, 1000 stimuli par heure, à regarder des dirigeants biberonnés à TikTok, agir comme si c'était sur TikTok, l'idiocratie mondiale généralisée, le monde géré par des virilistes, des mal-alpha, ça monte ses muscles comme sur un octogone. Déconnectons-nous de ces gens toxiques et dans un deuxième temps, déconnectons-les eux. Parce qu'on se bat, on s'invective, on se filme, on se tweet, clash, polémique, toi méchant, non toi méchant, ah bah non gentil, on sait plus. Et pendant ce temps, autre réalité, la banquise est à son niveau historique le plus bas, ça fond, ça chauffe, vous allez voir le nouveau désordre mondial de demain, celui-là il va être costaud. Voilà, j'ai plombé l'ambiance, vivement la journée spéciale chouquette, ça sera plus léger, sinon à la place du coca, il y a le Braise Cola, ça existe, et dans ces moments angoissants, soyons ensemble. Donc je vous fais des bisous.
Merci.
Sur scène, il sera à Lille ce dimanche et le 27 mars, il sera à Toulouse.
À l'affiche de Magma, qui sort le 19 mars prochain et réalisé par Cyprien Vial, notre invité, Théo Kessine, notre invité, mais également Marina Foïs et Mathieu Demy, entre autres d'autres événements culturels.
Une histoire de volcan et d'héritage, l'histoire de deux sœurs qui sont parties sur les traces de leur père qui est disparu en 85 sur les pentes d'un volcan, 40 ans après la mort de ce père, elles ont pu récupérer son sac à dos sur les pentes d'un volcan argentin. Justement, c'est dommage que notre spécialiste soit parti. Son corps, en fait, a été retrouvé à l'époque, mais pas toutes ses affaires, notamment son sac à dos. Et une alpiniste a repéré ce sac à dos. Et l'été suivant, ses filles se sont lancées l'été dans une expédition filmée à 6000 mètres d'altitude pour retrouver le sac à dos et le contenu de ce sac à dos, dans lequel elles ont pu trouver des choses assez, de la vitamine C, des cachets d'aspirine, mais aussi deux bobines de Super 8 de film.
Ah, wow.
Alors je ne sais pas, l'histoire ne raconte pas ce qu'il y a sur ces bobines, si elles étaient exploitables ou pas, mais en tout cas...
Il y a quoi sur ces bobines?
Et voilà. Mais ces filles racontent que leur mère leur a peu parlé de ce père disparu sur ce volcan, et que pour elles c'était une sorte de voyage initiatique pour retrouver un peu l'origine, l'histoire.
C'est un scénar,
totalement un scénar.
Une belle histoire.
Un début de scénar. Hein.
Un documentaire, donc on est sorti sur cette histoire un peu émouvante et touchante. S'il fallait garder un souvenir d'un être cher, d'un être aimé, ce serait lequel pour vous?
Il y a un client qui est rentré dans la boutique, je crois.
Parce que pour ces filles-là, ce sac à dos représente finalement plus que...
Comment il s'appelle, le doc, pardon?
Il n'est pas encore sorti, il a été tourné. Un objet auquel vous tenez, qui est un objet de famille.
Vas-y,
C'est chaud.
Ouais.
C'est dur.
Vous, Théo, s'il fallait sauver un objet avant l'éruption du volcan, il faut récupérer quoi dans sa maison? Parce qu'on le voit, le personnage de Marina Foïs fait ses bagages, elle prend une photo, on voit de façon, on sent que c'est une vie
tout
un peu solitaire.
Dans un carton.
Ouais, moi je trouve ça exceptionnel.
Ouais.
Ouais.
Je sais pas, j'ai rien qui
vous partez avec rien.
Mon père, il a une bouteille de rhum qui date de.
Ah, voilà.
Donc je prendrais cette bouteille-là.
Voilà.
Je la boirais en son.
Voilà le sens des priorités. Bravo, bravo. Autre, c'est pas tant une question, mais j'aimerais qu'on parle du film de Werner Herzog. Parce que le personnage de Katia, où on parle d'une création de personnage, mais c'est tiré d'une personne qui a véritablement existé dans ce film, Au cœur des volcans, Requiem pour Katia et Maurice Kraft.
Alors, disons que la figure de Katia Kraft, qui est une volcanologue des années 80, donc qui a parcouru le monde avec son mari Maurice, c'est une femme que j'adore en fait. Je suis pas le seul, hein, elle est très populaire. C'était une petite femme.
Moi je la connais pas, par exemple.
En fait, elle était photographe. Elle a ramené vraiment des milliers de photos magnifiques des volcans du monde entier. Et son mari Maurice aussi, lui filmait. Donc les deux ont beaucoup joué avec le feu. Ils ont fini par mourir en 1991 dans une nuée ardente au Japon. Et en fait, un des points de départ de ce film, c'est qu'est-ce qui se serait passé si Katia Kraft était née en 20 ans ou 30 ans plus tard.
Oui, oui.
Et j'ai commencé à me dire, peut-être qu'en fait, elle aurait pas eu un mari, elle aurait peut-être fait une carrière professionnelle plus, dans les arcanes de la volcanologie française, et voilà. Donc c'est un point de départ. Et le film d'Herzog est magnifique sur ce, il y a des images d'archives de toute leur vie, c'est très beau. Jusqu'à leur mort, la fin est vraiment...
Y a au des Japon, images, donc
ouais. Jusqu'à aux dernières minutes de leur vie, il a des archives qu'il a utilisées, c'est très émouvant.
Ils ont pris quoi, des risques au Japon sur
oui, complètement. On comprend dans le film qu'il joue un peu trop, là.
Ils ont poussé le truc.
Il y a, c'est vrai aussi, l'histoire humaine, parce qu'elle a une vie... Une famille, une vie amoureuse, si vous faites l'amour, ça veut dire quoi? C'est pas top.
Bah, c'est un personnage qui est plus intéressé par les volcans que par son amoureux. Enfin,
elle le dit,
par les humains.
Voilà. Non, elle aime bien, tu vois, elle a un amant en Guadeloupe et elle s'entend très bien avec ses deux enfants. Mais,
c'est de passage, quoi.
Ouais, elle sait que ça durera pas, en fait, quoi.
Vous vouliez qu'elle soit comme ça, qu'elle soit un peu tendue en permanence.
Ouais, j'avais envie qu'elle soit tendue, qu'elle soit. Je trouve que c'est, enfin, on en est peut-être à un moment dans les récits où les personnages de femmes peuvent être avoir des caractéristiques comme ça qu'on a connues chez des hommes qui ont des lourdes responsabilités. Donc ouais, elle est pas aimable tout le temps. Il y a la ligne professionnelle, il y a la ligne aussi. Enfin, c'est quand même l'histoire aussi d'une femme blanche sur un territoire. De la Caraïbe où qui a une histoire particulière et par moment Katia elle donne des ordres à tout le monde, elle se rend pas compte qu'elle reproduit des schémas un petit peu limites quoi. Voilà, c'est un personnage qui est rêche quoi.
Et Théo, vous dites d'ailleurs que à chaque prise, il y avait des propositions différentes qui se passaient dans le tournage du film. Vous avez dit dans une interview qu'il y avait des propositions et que c'était intéressant finalement de ne pas quitte à faire 4 5 6 prises que sais-je, de ne pas faire 6 fois la même chose.
Ouais, en tout cas, c'est ce que moi je trouve intéressant, et Marina aussi était là-dedans, et je pense que il y a notamment une prise quand on est sur une scène où on est tout en haut du volcan, où vraiment elle a joué quelque chose qui était à l'inverse de ce qu'on devait jouer, et ça a amené quelque chose de très chouette, je trouve, à la caméra. Et pour la scène.
Vous serez prochainement dans la saison 2 de BRI sur Canal. Votre personnage, qu'est-ce qui vous plaît dans votre personnage dans BRI?
Son mystère, et parce qu'il est un petit peu sur deux, il a deux lignes directives qui sont la BRI aussi, son histoire personnelle, sa vengeance personnelle, et c'est ce truc là qu'il est toujours un petit peu en retrait du groupe, il est assez mystérieux et on sait pas vraiment les raisons pour lesquelles vraiment il fait ça.
Socrate.
Et c'est cool de jouer, j'allais dire, les héros, les super-héros. Là, on est dans les forces spéciales. Il y a le côté héroïque aussi dans Magma. Vous avez grandi avec les Marvel aussi, avec ce genre de personnage. Vous aimeriez incarner un personnage de super-héros?
Ouais, j'adorerais faire Spider-Man. Je le dis.
Non, mais c'est vrai.
Oui,
faut le dire.
J'ai pas trop grandi dans les trucs des comics, des Marvel, tout ça, mais Spider-Man, ça a vraiment été toujours un truc.
Ou genre Mission Impossible, enfin faire des cascades, faire du.
Ouais,
du physique.
En fait, ça m'éclate. Tout simplement.
Très bien.
Donc, j'adore faire ça et. La chance que j'ai de pouvoir faire ça et aussi des projets plus. Plus artistique, entre guillemets. Voilà, je suis très content.
D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer en 2025 pour vous?
2025, il y a la saison 2 de BRI. Il y a un film qui s'appelle Oli, qui est un premier film d'un ami à moi qui s'appelle Antoine Besse, qui est un très très bon réalisateur. Et une série d'Isabelle Cochette qui s'appellera Quelqu'un devrait interdire le dimanche après-midi.
Et vous faites quel personnage là-dedans?
Et je joue Nelson.
Oui, enfin,
c'est un ami de Jean-Louis.
Qui est un apprenti Itamae, c'est un apprenti chef sushi, en gros.
Ah, d'accord.
D'accord.
Voilà, donc, c'était hyper intéressant. J'ai eu des cours de sushi.
C'est quoi ce que j'ai dit? Ce qui est agréable quand on a mille et une vie comme ça, quand on est acteur, c'est d'apprendre plein de choses totalement différentes.
Bah, moi, c'est ce que j'adore. Et c'est ce que j'adore quand, justement, on a aussi beaucoup de prépa. Pareil, Cyprien, pour le film, j'étais allé en Guadeloupe 10 jours avant.
Rencontrer des volcanologues?
Rencontrer notamment un volcanologue qui s'appelle Julien Novar qui avait à peu près mon âge et qui avait un petit peu l'histoire d'aimer, et que je pense que Cyprien
c'est un ingénieur de l'observatoire, et c'est marrant, Julien m'avait inspiré et il se ressemble un peu, et c'était rigolo. Théo, c'est vraiment la version cinéma de Julien.
D'accord.
Et ça va pour Julien.
Et c'est ça qui
est super, il est meilleur en technique que Théo.
C'est ça.
En plus, il est super musclé maintenant à force de.
Ouais. Okay.
Parce que Théo ne le dit pas, mais en fait, il est hyper à l'aise sur un territoire. Enfin, le volcan, c'est assez hostile en fait. C'est très physique et il était vraiment. Enfin, oui, c'est impressionnant de voir. Moi, j'avais jamais filmé un corps aussi à l'aise dans la nature, quoi.
avec le choix entre le chemin des dames et le chemin des hommes.
Ouais, il préférait le chemin des hommes.
Étonnant. Vous travaillez déjà sur un prochain film.
C'est le début. C'est le début, mais j'ai une petite frustration parce que j'ai adoré tourner sur le volcan pour ce projet. Et il y a presque un manque. C'était qu'une semaine. J'ai envie de montagne. Donc voilà, je lis beaucoup de choses sur les guides de haute montagne et sur les gens qui aiment la haute montagne.
Avec le problème technique aussi d'aller dans des endroits qui sont difficiles, ou est-ce que maintenant la technologie, les drones, la légèreté des caméras permet de faire... Vous parlez tout à l'heure de la lourdeur des caméras des années 90.
Moi, je suis pas trop branché drone, donc j'aurais envie d'aller à hauteur d'homme avec une vraie caméra.
Pourtant, là, il y en a des images.
Non, il y a pas du tout de drone.
Alors les images aériennes sont réalisées comment ?
Mais c'est pas des images aériennes, en fait, c'est des images prises au sol. On n'avait pas le droit d'utiliser de drone
Hélicoptère, non ?
Hélicoptère,
si je peux me permettre.
Pardon, hélico.
C'était ma première fois.
Vous devriez voir votre film, franchement, je vous assure. Il y a des images pas mal aériennes que vous avez visiblement oubliées. Vous avez viré beaucoup de choses, d'ailleurs, au montage ?
Énormément.
Non,
ça
c'est normal.
Non, c'est un tournage assez ramassé dans le temps. Il n'y a pas une matière... Il n'y a pas beaucoup de gras, en fait, en termes de rush.
Et il y a Duke Magma, ça sortira le 19 mars prochain. Des excuses à présenter.
Oh oui, désolé pour la mémoire, la carrière, l'œuvre, la famille, les talonnettes de Charles Aznavour, qui ont été souillées, tachées, trachées, désossées, tambourinées par Oldolaf. La mama est morte une deuxième fois. Pourquoi t'as fait ça ? C'est pas bien. C'est ça ton métier, fumier. On va devoir te brûler. Désolé.
T'as le droit de répondre, hein, Olivier. T'es pas obligé.
Non,
elle
a pas le droit. Désolé pour Nagui, qui a découvert ce matin qu'il n'aurait jamais pu devenir basketteur professionnel. Ça s'est joué à 80 cm. À peine. 90 max. Désolé, enfin, pour tous ceux qui considèrent que Nagui est un snob, un puriste, qui ne s'adresse qu'aux élites, nanani nanana, et ben non. Nagui sait comment rendre tout accessible, même pour les esprits simples. Tenez, pour parler des vulcanologues, il nous a trouvé chez le docteur de la montagne. C'est tout mignon, et il en a plein d'autres. Hein. Le banquier, c'est le docteur Pognon. L'escroc, c'est le docteur Simès. Enfin, sa créativité, on le sait, est sans limite.
Merci, docteur Enfoiré.
Présent.
1m86, Tony Parker, je suis allé vérifier. 1m86.
Elle est petite.
Et vous ?
Moi, je suis 1m82.
Bah voilà, donc vous êtes pas loin de Tony Parker.
Oui, il n'avait pas encore fait ça.
C'est l'âge de la croissance qui compte aussi.
Bon, après, j'avais peut-être un peu moins de talent que lui. Hein, aussi.
C'est pas ce que je voulais dire. Non, mais je veux dire que tout est possible.
Non, tout est possible, ça je le sais. Ça, je le sais.
Oui. Tout est possible. Quand on, et puis même dans tous les sports, quand on voit que Antoine Griezmann avait été viré de tous les clubs de formation en disant trop petit, pas le physique pour.
Tu parles de l'exception.
C'est toujours l'exception que l'on remarque. Oui. Et pourquoi ne pas être l'exception ?
Mais on peut espérer, puis après on peut se rendre compte que non.
je regrette tout, j'aurais dû continuer le basket.
Non. Et mais d'ailleurs, jouer dans un film, jouer à un sportif, jouer à un basketteur dans un film,
c'est pourquoi on ne ferait pas un biopic de Tony Parker ?
Allez,
c'est parti.
Mais non, vous allez jouer un skateur là.
Déposer
dans Oli.
Exactement.
Déposer le projet. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, Cyprien et Théo. Belle journée. Magma sort le 19 mars au cinéma et demain nous recevrons Joël Dicker dans la bande originale. Belle journée sur Inter. Ciao.